5h moins quart, vous êtes à Boulevard Ségravel dans le retour. Sur les routes, Audrey, ça se passe comment?
Il y a encore des problèmes si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord, hauteur du boulevard versant nord, la voie du centre qui est bloquée, le remorquage qui est en cours. Il y a également des problèmes sur la capitale, direction ouest, à la sortie boulevard Saint-Jacques, voie de droite qui est entravée. C'est une panne de ce côté-là. On nous disait aussi qu'à la fin du pont Pierre-Laporte, direction sud, il y avait une panne également. Vous dire que sur la capitale, direction est, ça se passe surtout à la hauteur de Robert Bourassa. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça ralentit. Il y a des problèmes encore, évidemment, sur Robert Bourassa, direction nord, là, à partir du boulevard Laurier jusqu'à à peu près Charret. Si vous tentez d'aller rejoindre en ce moment le pont Pierre-Laporte dû à cette fameuse panne, là, c'est bordélique sur le pont et pour l'atteindre. Donc, si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir, je vous dirais, de versant nord, ça commence à ralentir jusqu'au pont. Si vous êtes sur Duplessis en ce moment, direction sud, c'est à partir de chemin Sainte-Foy qu'il y a des complications. Et la rive sud, la 20 direction ouest, c'est entre la route du président Kennedy et chemin des îles pour le plus gros. Il y a quelques ralentissements aussi à la hauteur de Taniata. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. 88-971-102, un texto.
On travaille dans l'actualité, mais même en travaillant pas dans l'actualité, vous êtes exposé aux nouvelles de façon quotidienne, de façon omniprésente. Puis moi, une inquiétude que j'avais dans mes premières années, c'est-à-dire, tu sais, à un moment donné, à tout le temps baigner dans les nouvelles, tu vas développer un genre de carapace ou tu vas être blasé par rapport, par exemple, à tout ce que tu peux te faire raconter dans un palais de justice. Puis je me disais, si on perd cette émotivité-là, cette outrance-là, quand on lit des récits qui sont sordides, des histoires qui sont des fois d'une violence graphique inouïe, je me dis qu'on perd un peu de notre humanité. Puis des années plus tard, je trouve qu'on réagit encore de façon très sensible quand on se fait raconter des histoires horribles. L'humain est encore capable d'être humain une fois de temps en temps. Et il y avait beaucoup d'humains émotifs au Palais de justice aujourd'hui pour l'histoire d'Alexandre Turcot. Judith Demeul est journaliste judiciaire au Soleil. Salut, Judith.
Allô.
On revient sur une histoire qui s'est déroulée en juillet 2021 au London Jack. C'est un resto-pub sur Saint-Joseph. Puis je veux te lire les premières lignes de ton texte parce que je trouve que ça résume tout à fait ce qu'il y a de révoltant dans cette histoire-là en particulier. Alexandre Turcot compte 99 antécédents judiciaires. Son dernier crime grave, étrangler une inconnue jusqu'à la perte de conscience qui l'a laissée pour morte dans le fond d'une cabine de toilette. Il est déclaré délinquant dangereux.
Ouais.
C'est quoi être déclaré délinquant dangereux d'abord?
Ben, c'est une mesure très rare. C'est réservé aux pires délinquants de notre société. C'est quand tu veux pas que cet homme-là retourne dehors et qu'il soit un danger pour toute la société. C'est qu'on est sûr que si cet homme-là sort de prison, il va avoir d'autres victimes puis il va récidiver. Ça prend beaucoup, beaucoup de...
d'accumulation.
Ben, oui, puis les critères sont très sévères puis il doit répondre à chacun d'entre eux.
De mettre l'étiquette délinquant dangereux à un criminel, mm-hmm. est-ce que ça assure une certaine protection? Est-ce qu'on les suit, ces gens-là, ou c'est vraiment juste une espèce de poignée, s'il fait quelques délits que ce soit, de pouvoir le ramener dans le système?
En fait, ils restent en dedans pour une durée indéterminée. Donc, ils sont réévalués à chaque 7 ans, ce qui est environ, là, ce qui est quand même une longue période. Puis, on les aide dans la mesure du possible. Quand t'es déclaré délinquant dangereux, c'est qu'on a essayé de t'aider. Là. Il y a des experts qui t'ont rencontré, t'as fait des thérapies, puis ça n'a jamais marché.
99 antécédents judiciaires. Je comprends même pas comment on peut se rendre là?
Cet homme-là fait des crimes depuis qu'il a 18 ans. Son premier a été quelques jours après la majorité et il n'a jamais cessé. Quand c'est arrivé, là, puis on va revenir là-dessus, l'histoire du London Jack, c'est arrivé en juillet 2021, puis Alexandre Turcot est allé célébrer avec ses amis au London Jack parce que ça faisait 47 jours consécutifs qu'il était en liberté puis qu'il n'avait rien fait encore.
Pour lui, ça n'arrivait jamais pour lui.
Pour lui, c'était très rare. C'était comme un exploit.
On arrivait à 2 mois, là, puis on salue. Là, beau travail, tu sais. Puis,
Beau travail, c'est le temps que tu te retournes en dedans ou...
Vous êtes déjà allé au London Jack?
Oui.
Pour aller aux toilettes au London Jack, il faut que tu prennes l'ascenseur, il faut que tu sois en bas, puis c'est vraiment fermé du reste du restaurant. Puis les cabines, c'est des portes qui se ferment. Ce n'est pas des cabines ouvertes en bas, ouvertes en haut. Là. C'est une porte qui se clôt. Puis, cette femme-là, elle avait 30 ans, elle est allée aux toilettes, seule. Puis, Alexandre Turcot était là, il l'a vu arriver. Il l'a ramassée. Il l'a envoyée dans le fond de la cabine, puis il l'a étranglée. Puis, il lui disait des choses qui s'en allaient pour dire qu'elle a violé. Puis, elle a perdu connaissance. Puis, quand elle a retrouvé contact avec la réalité, il y avait du monde autour d'elle. Elle était dans le fond de la cabine. Elle était dans les vapes, là. Elle avait l'air saoule et droguée, mais elle était juste complètement déconnectée là, du choc qu'elle avait vécu. Puis, lui, il est parti parce qu'il a pris de panique parce qu'elle s'est évanouie. Là.
Il pensait qu'elle était morte, fait qu'il l'a laissée là.
Il l'a laissée là, il a refermé la porte, puis il est parti. Puis, il est allé à sa chambre d'hôtel qu'il avait réservée parce que c'est un gars de Montréal, puis il s'est appelé une prostituée. Ça a été ça qu'il a fait dans sa soirée. Ensuite, on a fait un avis de recherche. La police l'a recherché pour plusieurs crimes graves.
Il y avait plusieurs images de lui aussi.
Exact, des caméras de surveillance. Puis il y avait plusieurs tatous qui voulaient bien dire que c'était lui. Il a été arrêté, accusé. Puis c'est là qu'on a vu l'homme derrière ce crime-là, qui était un gars avec 99 antécédents judiciaires et 95 peines de prison, y compris celle-là qu'il y a eu aujourd'hui.
Comment il s'est défendu, s'il s'est défendu, et comment il s'est comporté en cours? Parce que je pense que ça a été souligné, ça, aujourd'hui.
Oui, puis cette histoire-là, oui, la gravité des gestes parle beaucoup, puis c'est un gros dossier, mais c'est devenu encore plus important avec tout le processus judiciaire, puis l'attitude que lui avait au tribunal. Bon, premièrement, on s'en va à procès parce que lui ne reconnaît pas les gestes, n'a aucun remords, aucune reconnaissance de quoi que ce soit. Il dit que c'est cette femme-là qui l'a séduit puis qui lui a demandé de réaliser son fantasme d'être choquée.
Ouf!
Fait que cette fille-là, qui est médecin de profession, en passant, là, elle serait descendue aux toilettes.
Pour l'attendre.
Elle était, en passant, au London Jack avec son chum et ses amis. Puis, il lui aurait demandé là, de la choquer là, dans la salle de bain.
Ça, c'est lui, il racontait ça devant la cour, là.
Oui, puis lui, il comprenait pas. Puis là, il a capoté parce qu'elle a perdu connaissance. Mais c'est elle qui l'avait demandé. Fait que c'est ça qu'il a dit. Puis, arrivé au jugement, le juge d'amour, tu sais, quand on dit que quelqu'un est coupable sur toute la ligne, là, on le dit souvent, mais dans ce cas-là, là, non seulement coupable sur toute la ligne, mais on a souligné le mépris de cet homme-là tout au long du procès. Puis, en plus, on a qualifié ses gestes d'odieux. Puis le juge a dit, ce qui est arrivé, là, c'est que t'es entré dans la toilette pour assouvir tes pulsions avec la première belle-fille que t'as croisée. T'sais. C'est ça qui est arrivé.
L'attitude pendant le procès, est-ce que ça fait partie des facteurs pour lesquels on décide de le déclarer délinquant dangereux, de dire l'absence de remords? Je veux dire, au-delà de ce qui s'est passé en juillet 2021, l'attitude actuelle que tu as par rapport à tout ça?
Parce que l'attitude démontre que tu ne veux pas travailler sur quoi que ce soit de tes problèmes.
Tu n'as aucun remords. Tu n'as pas fait d'erreur là-dedans.
Exact. Non seulement il n'y a pas de remords, mais tu n'es même pas capable d'accepter tes actions, que ce que tu as fait, c'est mal. Puis donc, on peut aller nulle part, là, si t'as pas ça. Là.
La victime, elle.
Bien, là, arrivé aux observations sur la peine, là, c'est le temps de lui donner une peine. Puis c'est là que le procureur du DPCP est arrivé avec « Moi, je veux qu'il soit déclaré délinquant dangereux. Il y a pas d'espoir pour cet homme-là. » Puis la victime a témoigné. Elle a lu une lettre qu'elle avait rédigée et c'était assez poignant.
C'est elle qui l'a lu?
Oui, elle l'a lu. Puis, elle l'a dit, j'ai regretté d'être une femme. Puis, j'ai regretté d'avoir mis ma robe parce qu'elle était tellement facile à soulever cette journée-là. Puis, quand on en arrive là, c'est là que tu vois toutes les
conséquences
psychologiques que cette femme-là est là. Non seulement, puis tu sais, elle n'a pas parlé des séquelles physiques, là. Oui, elle a eu des bleus autour du cou, oui, elle a eu mal, mais tout ça, c'était pas important rendu 2 ans plus tard. Ce qui est important, c'est qu'elle était plus capable d'aller à l'épicerie tout seule. Chaque inconnu qui l'approchait la faisait sursauter. Elle avait un sentiment de culpabilité d'infliger ça à ses proches. Puis toutes ses amies autour d'elle, là, avaient plus de sentiment de sécurité là, par rapport aux étrangers. Fait qu'elle se sentait mal de leur avoir causé ça. Donc, c'est ça qu'elle est venue raconter, puis ça a aussi penché dans la balance.
Est-ce qu'il y avait des gens pour la soutenir dans la salle?
Tellement bien soutenue.
Oui.
Sa famille, ses amis, son conjoint. C'était beau à voir d'un côté, là, parce qu'ils se sont tenus là, tout au long des procédures. Puis, oui, c'est ça qui est touchant aussi.
Et pendant qu'elle lit cette lettre-là, l'accusé se comporte comment, lui?
Il ne l'a pas regardé une fois.
Okay.
Il a beaucoup la tête baissée, il était très agité. À chaque fois, il est un peu... Il a l'air de s'en foutre, mais en même temps, il a l'air de fru d'être là, tu sais.
Mm-hmm.
Donc, on attribue ses sentiments à lui.
Du genre, il s'est fait pogner, merde, là.
Ouais. Puis, c'est là que... Tu sais, je vous parlais tantôt, le juge a été cinglant dans son jugement, mais il a été encore plus cinglant aujourd'hui en rendant sa décision. Parce que là, il a dit qu'il... Puis tu sais, des fois, là, les juges sont remplis d'empathie. Là. Ils souhaitent bon courage aux détenus qu'ils sentencent. Mm-hmm. Ils s'adressent à eux en tant qu'humain à humain. Puis bon, bonne réhabilitation, bonne chance pour la
suite.
Parce
qu'on est dans ce système-là qui vise la réhabilitation.
Mais aujourd'hui, là, il n'y en avait pas. Là. C'était de l'indifférence par rapport aux autres, de l'indifférence par rapport aux conséquences et à la sécurité des autres. Toujours utiliser la violence pour arriver à tes fins. Absence de remords complète, absence de réalisation, tout le temps échec après échec. À chaque fois qu'on te remet en prison, tu nous prouves le contraire. Quand il est en prison, c'est menace aux agents correctionnels, aux infirmières qui essayent de l'aider, aux experts qu'il rencontre. C'est voie de fait envers les agents, les co-détenus, c'est cachette de drogue, c'est
livraison. Il n'y a rien à faire avec, là, c'est carrément ça. Là.
Et puis si le juge avait pris le temps de tout énumérer les erreurs de ce gars-là, là, on serait encore au palais de justice aujourd'hui.
Son empathie, il l'a gardé pour la victime, de ce que j'ai compris.
Oui, puis c'est tellement rare qu'un juge fait ça, qu'après qu'il ait rendu sa décision, c'est bye-bye Alexandre Turcot. Ensuite, c'est une peine à durée indéterminée, là, donc il est parti en dedans pour un méchant bout. Puis même que ces gens-là qui sont déclarés délinquants dangereux, ils ne ressortent jamais de prison. Là.
C'est une question que je voulais te poser parce que, justement, c'est très rare qu'on entend ça, peine à durée indéterminée. Ouais. Tu sais, habituellement, on va avoir des sentences, même les sentences à vie, on va dire sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Comment ça fonctionne, justement, ce genre de peine-là? Puis est-ce que c'est justement pour vraiment éviter qu'il y ait des portes de sortie potentielles qu'on l'a, en plus de ça, déclaré délinquant dangereux?
Oui, parce que délinquant dangereux, c'est tu ressors juste pas.
Malgré les 7 ans, malgré tout.
Parce
là.
Que quand on parle de liberté provisoire, là, c'est quand on te remet dedans puis on voit comment ça se passe. Bien, lui, il a prouvé que quand on le remet à l'extérieur, il fait d'autres crimes. Puis là, c'est carrément pour les empêcher de commettre un meurtre. Parce qu'on pense que ça va arriver. Fait que c'est juste de ne pas le laisser sortir du tout.
Je veux pas
puis c'est un suivi à vie, excuse-moi.
Oui, non, mais ça, c'est bon à savoir, mais je veux pas faire le procès de qu'est-ce qui est plus grave que quoi, là. Mais tu sais, ça m'amène un peu à me demander pourquoi ceux qui commettent des meurtres, littéralement, là, de sang-froid, qui récidivent, sont pas considérés comme des délinquants dangereux.
Parce que dans ce cas-là, ça prend une accumulation. Ouais. Ça prend une accumulation de crimes graves, puis ça prend des preuves que tu t'en fous puis tu respectes rien. Là. Quand je te dis que les critères sont sévères, là, c'est ça.
Quand on parle de cette nouvelle-là dans un bulletin de nouvelles entre nous autres, Judith, la réaction qu'on a, nous autres, autour de la table, puis que bien des auditeurs ont, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris cette décision-là avant? Est-ce qu'il y a un travail qui n'a pas été fait? C'est toujours bien 99 infractions. Est-ce que dans une salle de cours, ça se discute, ces choses-là? Est-ce qu'un juge peut même aller jusqu'à dire on aurait dû l'empêcher de sortir avant?
Je pense que son pire crime, c'est le dernier qu'il a fait.
Oui, ça, je comprends ça.
C'est lui qui a bouclé un peu la boucle de son sort.
Les autres méfaits, les autres accusations avant n'étaient pas
suffisamment. Exact, c'était des braquages, des vols armés, des recels, des méfaits, des voies de fait. Fait qu'il manquait là, le crime grave qui fait une victime.
Triste.
Et plusieurs autour. Puis, pour revenir à ta question de tantôt, le juge a fait sortir Alexandre Turcot, qui avait l'air bien fâché, d'ailleurs, de la décision. Puis, il a adressé quelques mots à la victime. Il lui a dit que peu importe ton bagage, peu importe tes qui dans vie, peu importe ce que tu fais, t'es jamais prêt à faire face au pire de l'humain. Donc, c'était ça, Alexandre Turcot. Là. Mmh. C'est le pire de l'humain. Il lui a dit, j'espère que vous allez plus jamais regretter d'être une femme. Puis j'espère qu'à l'été prochain, vous allez les mettre vos robes parce que c'est pas ce gars-là qui doit t'enlever ton sentiment de sécurité pour toujours. Puis tu sais, quand on parle là, que les filles, là, ça va en gang aux toilettes, là, au bar, au restaurant, bien, il y a un peu de ça derrière.
Ben, c'est-tu quoi? Ça va me revenir dans la tête à toutes les mousses de fois.
Parce qu'une histoire comme ça, une agression gratuite comme ça, ça joue dans la tête, pas seulement à la victime puis à ses proches, mais à tout le monde qui peut l'entendre, parce que ça aurait pu être n'importe qui.
Tu sais, puis on a cette discussion-là souvent en onde avec Denis, puis tu sais, Audrey puis moi, on a été élevés par nos mères à se méfier de toutes. Très jeune, ma mère m'a appris, il faut que tu te saques une clé entre les doigts. Si t'en vas dans un stationnement ou t'as peur pour ta sécurité ou quoi que ce soit, tu sais.
Faire à semblant de parler au téléphone.
Pis, des fois, on se dit, mais si c'est passé, il y a de la sensibilisation, l'être humain s'améliore. Fuck off, c'est pas vrai.
C'est exactement ce que le juge d'amour a dit dans son jugement, le premier qui est rendu. Là-dessus, il a dit, encore en 2024, parce que l'année passée qu'il l'a rendu, il faut rappeler aux hommes que les femmes ne sont pas des jouets. Puis Alexandre Turcot en est l'exemple. Parce que lui, c'est ça qu'il a fait en juillet 2021.
Les gars, prenez soin de vos amis de filles. Ouais. Tournez pas ça au ridicule, si elles font plus attention, si elles se méfient ou quoi que ce soit, des histoires de même, ça existe encore.
Exact.
Véro, je m'excuse de t'avoir appelé vieille poutre.
C'est pas long. T'es vraiment cave.
Ça devait être émotif dans la salle, je veux dire. Oui, je te sens émotive à raconter l'histoire.
Oui, parce que... La greffière est émotive, les agents correctionnels trouvaient ça tough.
Mais c'est des gens qui sont là-dedans tout le temps.
Puis on le voit au complet, puis on la voit, la victime est à côté de nous, on lui parle dans les pauses, puis elle... Tu sais, oui, elle a trouvé ça difficile, puis aujourd'hui, là, elle regardait le juge, elle était très reconnaissante de ses mots pour elle, puis elle avait l'air soulagée. Oui, elle pleurait, oui, c'est encore difficile, mais... « Hey, ce gars-là va rester derrière les barreaux. Là. T'auras pas à craindre que tu le croises dans la rue. Tu penseras pas à lui. Là. Il est en prison. T'es protégé. »
Ça paraît
dans sa face.
Puis de la façon que le juge s'est adressé à elle, moi, je trouve que c'est un pouvoir colossal sur la suite des choses aussi. Je pense qu'il y a peut-être des choses là-dedans qu'elle avait besoin d'entendre. Pas seulement de ses proches, mais de la justice en tant que telle.
Oui.
Quelle histoire! Puis ce qui est plate là-dedans, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a à tous les jours, des mots juste d'histoire de même.
Ils sont pas toutes difficiles comme celle-là.
Mais je sais qu'il y en a une autre là, qui s'en vient, que vous surveillez. C'est quoi? C'est vendredi?
Oui, Félix-Antoine Bédard, c'est le coach de soccer qui avait fait une vingtaine de victimes dans le milieu du soccer mineur. Lui, il coachait à l'Académie Saint-Louis, puis il coachait au civil aussi... pour la région de Québec. Donc, c'est un autre là, coach qui a utilisé de son rôle pour abuser des filles là, dans le contexte du sport. Puis la poursuite demande 10 ans pour envoyer un message, puis pour toutes les vies que ça a brisées, parce que les petites filles, maintenant, associent le soccer à ça. Ah. Puis c'est censé rester un jeu, c'est censé rester une passion. Puis la défense demande 3 ans.
Oh!
Parce que...
Bon, décalage entre les deux, hein?
Parce que Félix-Antoine Bédard n'en est resté qu'aux textos, aux photos. Il n'a pas dépassé la ligne de les rencontrer en personne.
Puis,
à suivre vendredi.
Je ne sais pas si ça peut se quantifier dans une salle de cours, mais c'est la zone d'ombre que ça vient projeter sur tous ceux qui font ça avec le cœur puis la passion du sport. T'sais. Dans un milieu où il n'en reste plus beaucoup des gens
comme ça. Ça, c'est plein de petites filles qui auraient pu devenir professionnelles, joueuses de soccer, qui vont laisser ça parce qu'ils veulent plus rien savoir du sport à cause de cet événement-là.
Terrible. Hey, Judith Demel, merci beaucoup. Merci de nous partager ces histoires-là avec beaucoup d'émotion. C'est pour ça qu'on t'invite autour de la table. Puis tu reviens quand tu veux. Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. C'est rare que ça arrive, mais il y a un gars qui en a fait suffisamment pour être déclaré délinquant, dangereux. Celui-là, normalement, il ressort pas. C'est-tu un statut ou un autocollant qu'on devrait donner à plus de monde? Je lance la question ouverte.
Moi, écoute, je suis pas mal là. J'ai mille une question.
On pourrait être généreux.
J'ai mille une question sur le pourquoi il n'y en a pas plus qu'ils l'ont, cette étiquette-là, en fait.
Je te dirais qu'on est plusieurs à se poser la même question présentement. On fait une courte pause, on revient. C'est Gravel dans le retour à Boulevard.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans le retour, par texte.